Chapitre 5. Comme chaque année, la kermesse de Sark Magna devait avoir lieu le 5 juin. Pour l'occasion, on avait prévu une sonnerie de cloche très particulière, composée selon des règles mathématiques par le professeur de sciences, Colin Docherty. La séquence, ayant une durée raisonnable, le groupe avait commencé par accepter. Mais Gloria fit valoir ensuite qu'un monsieur de ses amis trouvait la sonnerie déplorable. D'après elle, cet arbitre du bon goût avait assisté aux répétitions. Le temps restait lourd et humide, et le ciel était toujours gris. Les sœurs Dupin se mirent à critiquer le programme de Colin, alléguant qu'on avait toujours sonné le Sark Triples pour la fête et qu'on ne plaisantait pas avec les traditions. Helen Toms répliqua qu'elle était favorable au changement et Julian lui donna raison. Tous les autres, cependant, se rangèrent du côté de la tradition et Colin était en train de leur faire un scandale lorsque l'évêque se présenta à l'improviste. Il souhaitait s'entretenir en privé avec les sœurs Dupin. Alors qu'il se retirait au salon, le sacristain Harry Bury, remis de ses mésaventures, se mit à enguirlander Colin avec le soutien du boucher.
« Vous ne pouviez pas lâcher l'affaire, non ?»
L'évêque et les jumelles ne tardèrent pas à reparaître et Millicent expliqua que, pour la bonne entente de tous, la tradition serait respectée et la composition de Colin renvoyée au dimanche suivant. Le professeur indigné sortit en trombe, talonné par Julian. Radieuse, les Dupin annoncèrent fièrement que tous sonneraient les cloches en armure et auraient les honneurs de la presse locale et de Midlands Television. La collection d'armures de l'évêque était très renommée. Il invita le groupe au palais épiscopal pour le lendemain afin de procéder à l'essayage. « Mais il va faire très chaud !» avança Helen Toms.
« J'ai déjà réfléchi !» fit le boucher. « On n'aura qu'à les mettre juste pour la photo, pas pour la sonnerie !»
La perspective de se déguiser et de figurer dans la presse régionale ramena tout le monde à de meilleurs sentiments. Le lendemain, Mrs. Blugsby tâcha de convaincre Agatha de l'accompagner à la fête de Sark Magna. « La presse est repartie, il ne reste que les journaux régionaux, » précisa-t-elle. « Et puis, j'ai promis à Mrs. Toms de venir. En plus, on sera samedi, et vous ne travaillez plus ce jour-là. Je suis sincèrement désolée pour votre mésaventure. » « Mais dites-vous que la vie continue ?» Agatha poussa un grand soupir. Elle regrettait un peu d'avoir parlé de sa liaison à son amie et elle ne voulait surtout pas lui avouer qu'elle était tentée de rejoindre Terry pour lui dire qu'elle acceptait de le suivre en Australie. Il pourrait toujours envoyer de l'argent à ses enfants et à sa femme afin qu'il ne manque de rien. Mais elle ne savait pas où trouver Terry. Et en plus, Julian commençait à lui réclamer des résultats. Vu que Charles s'était encore volatilisé, elle ne savait même pas s'il avait pu récolter quelques informations. Tout à coup, elle eut envie de monter en voiture et de partir très loin, loin du souvenir de ses amours déçus, loin de son travail et de ses obligations, et de continuer à rouler, jusqu'à n'en plus pouvoir de fatigue, la tête vide de toute pensée. Pendant ce temps, Mrs. Blugsby priait en silence pour elle. « Mon Dieu, je vous demande de lui envoyer un autre homme. » Elle se sentit rougir, persuadée que c'était la prière la plus stupide qu'elle ait jamais prononcée. « C'est bon, je vous accompagne, » lui dit finalement Agatha. « Mais ne laissez plus Helen Toms vous accaparer comme ça. Cette femme est une martyre professionnelle. » « Comme moi, peut-être, » ajouta-t-elle tristement en son fort intérieur. « Qu'est-ce qui me prend ? De vouloir courir après un traître et un menteur ?» De toute évidence, ce n'était pas le temps idéal pour endosser une armure et sonner les cloches dans un tel accoutrement. Pourtant, séduit à l'idée de passer à la télévision, les 8 carillonneurs de Sark Magna en avaient finalement décidé ainsi et ils se rengorgèrent de fierté lorsque les médias régionaux immortalisèrent cette scène grotesque. La démonstration fut toutefois de courte durée, car Helen Toms se trouva mal et s'effondra sur le sol dans un grand fracas métallique. Mavis releva sa visière, les traits déformés par la rage, d'autant plus furieuse que Julian et l'évêque s'étaient déjà penchés sur Hélène. Comprenant que l'équipe de télé enregistrait chaque mot malveillant, Mavis et les autres finirent par se maîtriser. Agatha, une des rares personnes à avoir pu monter dans le clocher, ne se tenait plus de rire au point qu'elle en oublia presque l'épisode Terry Fletcher. Le plus remonté de la bande était peut-être Colin Docherty, contrarié que ces variations n'aient pas été retenues. Lorsque Helen Toms se retira, soutenue par son mari que l'on avait prévenu de l'incident, Mavis déclara qu'elle pouvait assurer sa partie et se saisit aussitôt de la corde abandonnée. À l'extérieur, le public salua timidement la prestation, pure cacophonie pour leurs oreilles de profanes, mais musique céleste pour les campanophiles. Agatha et Mrs. Blocksby allèrent ensuite flâner parmi les stands de la kermesse. Rien de bien nouveau là-dedans. Troc, tombola et bouquins d'occasion. Un écrivain local était venu dédicacer ses livres, mais la plupart des gens l'ignorèrent pour bien lui montrer qu'il ne les impressionnait pas. Il y avait aussi tous les classiques des fêtes foraines, jeux de quilles et baraques à burgers, manèges et balançoires pour les enfants. L'évêque et son doyen distribuaient des brochures pour la maison de retraite de l'abbaye, annonçant des tarifs qui stupéfièrent Agatha. Un mois de pension coûtait presque 7000 livres, sans compter les prestations personnalisées. De quoi donner envie aux familles de pousser leurs chers aïeux dans l'escalier, histoire d'empêcher leur héritage de fondre à toute allure.
« Elle était toxico !»
fit une voix derrière son dos. Agatha se retourna en sursautant. « Charles, tu parles de l'héritière? Comment tu as découvert ça ?»«
J'ai invité la bonne à sortir, le soir où elle était de repos. D'ailleurs, je te ferai parvenir la note. Jennifer avait soi-disant un dealer à Mercer. Tu vois qui ça peut être ?»«
Je vais mettre Patrick là-dessus. Au moment de sa disparition, Jennifer fréquentait encore l'évêque ?»«
Non. » Elle a dit à Gerda que Peter n'était qu'un connard intéressé.
Pourtant, il n'a pas que des mauvais côtés. Il se démène pour collecter des fonds pour la maison de retraite. Un roulement de tonnerre se fit entendre au loin. Mrs. Blocksby promena son regard autour d'elle d'un air pensif.
Je me demandais...
Quoi donc ?
Fit Charles.
Ce policier qui est mort assassiné. Personne n'a l'air de se soucier de lui, ni de s'interroger sur le mobile du meurtre.
« Moi, je m'en suis occupée !»
affirma Agatha. C'était un pur mensonge, mais elle ne voulait pas trahir la moindre faille dans ses capacités d'enquêtrice.
« Ah oui ? Et qu'a découvert notre génial détective ?»
railla Charles. « Quelqu'un a voulu l'empêcher de faire des révélations à la presse. »«
Et tu sais qui est ce quelqu'un, Sherlock ?»«
Mais non, pas encore !» s'énerva Agatha. Par contre, j'ai dans l'idée que quelqu'un va finir assassiné aujourd'hui même. Sonner les cloches en armure, n'importe quoi, et il continue en plus. Je vais jeter un coup d'œil. La sonnerie était presque terminée, et Mavis, parfaitement ridicule dans son armure étincelante, manœuvrait les deux cloches sans difficulté.
Elle doit avoir des muscles en acier, se dit Agatha.
Chacun avait relevé sa visière, le visage dégoulinant de sueur. Tous semblait extrêmement concentré, mais l'expression de Millicent était carrément proche de l'extase. L'orage se rapprochait, et une lourde rafale de vent moite s'engouffra par la porte ouverte du clocher. Dès que s'éteignit l'écho de la dernière cloche, le doyen fit son entrée, suivi d'une femme bien en chair, qui apportait des chopes de bière sur un plateau.
« Parfait !»
déclara Donald Whitby.
« Gordon Fraser, le responsable du musée de l'abbaye, est là pour vous aider à retirer vos armures. » Je parie que vous n'attendez que ça. Et notre cuisinière, Mrs. Rudge, va servir des bières pour vous rafraîchir.
Je suis surprise que vous leur ayez permis de porter ces armures, observa Agatha. Ce sont des pièces de valeur, non?
Rassurez-vous, nous leur avons prêté de simples copies. Nous prenons grand soin des pièces originales. Mais sachez que les imitations coûtent quand même entre 2000 et 5000 livres. Il nous arrive de les louer pour diverses festivités. Ça amortit notre investissement. « D'ailleurs, celles-ci sont nettement plus légères que les armures d'époque. »«
Qui les a fabriquées ?»«
Quelqu'un d'ici ? J'ai oublié son nom. Il est décédé depuis. »«
Comment ? » ?»«
Comment quoi ? » ?»«
De quoi est-ce qu'il est mort ?»«
De botulisme, une espèce d'empoisonnement alimentaire. »«
Vous savez dans quelles circonstances ?»«
Ça venait des cuisines de l'abbaye, si ça vous intéresse. »«
Il y a eu d'autres victimes ?»«
Non, Mrs. Raisin. » Excusez-moi, mais j'ai autre chose à penser.
Une nouvelle rafale de vent tira de la cloche ténor une note isolée, douce et chevrotante. Agatha appela Patrick pour qu'il se renseigne sur les dealers du coin. Elle le questionna également sur le meurtre du policier, mais il n'y avait aucun élément nouveau. Et en plus, Larry Jensen était tellement impopulaire que la plupart des gens se réjouissaient qu'il ait débarrassé la planète de sa présence. Agatha proposa à Patrick de venir la retrouver le soir même au bar du George Hotel. La bière, fortement alcoolisée, était accompagnée d'un monceau de sandwichs. L'euphorie des carillonneurs céda bientôt la place à la fatigue, puis ils devinrent franchement grincheux. « Vous auriez dû jouer ma composition, » maugréa Colline. « Mais vous, évidemment, vous préférez ramper devant l'évêque. » C'est cette bécasse d'Hélène qui a tout gâché avec son malaise, se défendit Gloria. Le doyen les rappela à l'ordre.
Allons, messieurs dames, pas de prise de bec, je vous prie. Merde! De quoi il se mêle, ce vieux timbré?
Grommela le sacristain. Gordon Fraser, le responsable du musée, l'entraîna aussitôt à l'écart et lui chuchota quelque chose qui le fit virer au blême. Harry hocha la tête avant de rejoindre sagement le groupe. On dirait la mafia, songea Agatha en observant la scène. L'évêque joue le rôle du comte Siliré et les autres sont ses hommes de main.
Eh bien, lança Mavis, vous devriez me féliciter de vous avoir sauvé la mise. Vous avez vu comment je m'en suis tirée avec mes deux cloches?
C'était magnifique, ma chère, approuva l'évêque. Gordon, reservez une bière à l'héroïne du jour. Un puissant souffle de vent entra dans le clocher comme un immense soupir. Le grondement du tonnerre se rapprochait, et Agatha s'aperçut en sortant que les marchands étaient en train de plier boutique.
Venez, nous rentrons au presbytère, la pressa Mrs. Blugsby.
Elle craignait en effet que, si Agatha retournait chez elle, ce maudit journaliste l'attende devant sa porte.
Voilà qui était typique des femmes complexées, voir leur premier grand amour étouffé dans l'œuf. Il restait Charles malgré tout. Manifestement, il avait des sentiments pour Agatha et l'amitié demeurait le fondement le plus solide du mariage.
Elle s'apprêtait à lui proposer de les suivre, mais elle n'eut pas à se donner cette peine. Charles s'était déjà invité. Confortablement installée dans le salon du presbytère, Agatha déclara
« Je ne veux plus jamais revoir ce village. C'est incroyable qu'Hélène Toms ne demande pas le divorce. »
« Ça lui enlèverait toute raison de se comporter en martyr, » allégua Charles. « De plus, elle se retrouverait libre d'épouser Julian, ce qui impliquerait des relations sexuelles dont elle ne veut pas.
« Qu'est-ce que tu en sais, toi? Tu as tenté ta chance ou quoi ?»«
Question d'expérience, rien de plus. »
« À moins d'abandonner vos enquêtes, » fit Mrs. Blugsby, « il y a de fortes chances que vous retourniez à Sir Magna. »«
Comment ça ?» répondit Agatha, dont les pensées se portèrent immédiatement vers Terry.
« Oui, les gens sont tellement émotifs dans ce village, tellement tendus. C'est curieux. D'habitude, les carillonneurs sont très équilibrés. »«
Vraiment ?»
s'étonna Charles.
« Personnellement, je crois que je deviendrais dingue si je devais enregistrer toutes ces variations mathématiques. Et je me permets de souligner que les gens équilibrés ne s'accoutrent pas d'une armure pour sonner les cloches en pleine canicule. » En fait, Aggie, j'ai une info pour toi. Ne m'appelle pas. Tais-toi. Écoute plutôt ce que j'ai à dire. Pendant que j'étais en voiture pour venir chez toi, j'ai eu un appel de Gerda. En fouillant dans l'ancienne chambre de Jennifer, elle a trouvé un numéro de téléphone inscrit sur le mur derrière son lit. Et j'ai contacté ce numéro avant de te rejoindre.
Et alors?
Pas la peine de me faire les gros yeux, ma chérie, ça ne m'intimide pas. « Figure-toi que j'ai pris rendez-vous pour ce soir à 17h au bar du Georges. Il s'agit d'une vieille copine de Jennifer. »«
Je viens avec toi alors. »«
Non, toi tu te contenteras d'observer de loin. »«
Comment elle s'appelle cette fille ?»«
Duxie Devenham. On la surnomme Duxie. En réalité, je crois qu'elle s'appelle Sophie. Je connais sa famille, ils ont énormément d'argent. »
« S'il vous plaît, Charles, » pria Mrs. Blugsby, « ne commencez pas à penser au mariage, pas avant qu'Agatha se soit remise de son histoire avec ce fichu journaliste. »
Assise dans un coin au bar du George Hotel, Agatha regardait Charles bavarder avec une femme aux longues jambes. À travers la vitre, elle voyait les passants se hâter sous l'averse. Elle n'en revenait pas que la moitié de l'année est déjà filée. Le derby succéderait aux régates, puis ce serait l'époque des défilés militaires, et les gens commenceraient à dire que les jours raccourcissaient.
« J'ai envie de tout larguer pour suivre Terry en Australie », se dit-elle. « Après tout, il y a des tas de gens qui divorcent. »
« Sauf que je ne peux pas faire ça. Il a des enfants. »
Une grosse larme roula sur sa joue et tomba dans son verre de gin tonic.
Charles, de son côté,
était en train d'aider Doxy à enfiler son manteau. Agatha entendit la jeune femme lui dire
« C'est OK pour demain soir, on se retrouve ici. »
Après l'avoir accompagnée à la porte, Charles vint s'asseoir près d'Agatha.
« Doxy vient de divorcer, » lui apprit-il, « mais elle a l'intention de se remarier et elle n'est pas tellement bavarde à propos de Jennifer. Je suppose que tu es ravie de mes découvertes, mais je te rappelle quand même que tu as deux jeunes enquêteurs sérieux et futés à ta disposition. »
« Je suis au courant, » répliqua Agatha, qui avait cependant négligé beaucoup de choses durant cette période de déprime. « Je vais envoyer Simon et Tony sur le terrain. Patrick leur fera un topo sur le milieu des dealers. J'aimerais que tu découvres où Jennifer achetait sa drogue, même si tu n'obtiens pas le nom du fournisseur. Ça fera un point de départ pour Simon et Tony, et ils retrouveront peut-être d'autres amis de Jennifer. » Charles lui jeta un regard oblique.
« Je te signale que si j'épousais cette chère Doxy, ce serait la fin de mes ennuis financiers. »
« Comme tu voudras, » fit Agatha en haussant les épaules. « Merci beaucoup, Charles. Je vais rentrer chez moi, je suis à bout de force. » En la regardant s'éloigner, Charles réalisa qu'il en venait à espérer un meurtre ou une perturbation quelconque pour qu'Agatha se sorte de l'esprit ce foutu journaliste. Le mauvais temps semblait parti pour durer. Il savait pertinemment qu'Agatha, qui progressait très peu dans cette affaire de disparition, malgré l'aide qu'il lui apportait, se lasserait bien vite de la routine de l'agence, avec ses chiens et ses chats perdus, ses gamins fugueurs et autres corvées ingrates. Le problème, avec ce qu'on appelait l'amour, c'était que les puissantes réactions chimiques qu'il produisait dans le cerveau risquaient d'amener un saint à justifier un massacre.
« Pourvu que ça ne m'arrive jamais !» pria Charles en lui-même. « Moi qui tiens tellement à garder le contrôle. » Ou alors, juste un petit aperçu de ce fabuleux sentiment. Ça me suffirait amplement.
De retour à son domicile, Agatha trouva un mot de Doris Simpson sur la console de l'entrée. « Les fleurs sont arrivées cet après-midi, lettre jointe. » Elle parcourut aussitôt le message qui accompagnait le bouquet de roses jaunes. « Ma chérie, je repars demain soir pour l'Australie avec ma famille. Accepte, s'il te plaît, de me voir une dernière fois. » Peux-tu me retrouver demain matin au Elvino de Fleet Street pour qu'on se dise au revoir? Je t'aime, Terry. » Un sentiment d'exaltation un peu folle s'empara d'Agatha. Bien sûr qu'elle irait au rendez-vous. Vu que ce serait leur dernière rencontre, elle pouvait bien s'accorder cette satisfaction. Pour ne pas avoir l'impression de gaspiller son temps, elle appela Tony et l'invita à concentrer ses recherches sur le milieu de la drogue et les relations amicales de Jennifer.
N'ayant rien de mieux sous la main que des plats surgelés, elle se mit en route pour le pub après avoir nourri ses chats.
Installée à une table d'angle, elle commanda des lasagnes et se plongea dans un roman policier. Une voix hostile interrompit sa lecture.
« Je sais tout sur vous !»
Agatha découvrit alors Millicent Dupin, dont le visage était contracté par la haine.
« Ce sont les traînées dans votre genre qui détruisent les ménages !» Cette pauvre Mrs. Fletcher. Et dire qu'elle attend un enfant en plus. Dieu merci, elle s'est tournée vers notre cher évêque qui a réussi à convaincre la famille de retourner en Australie. Faut-elle quand ?
Lui cria Agatha. Le silence s'abattit sur la salle tandis qu'elle poursuivait.
Dégagez d'ici ou je vous tue, sale fouteuse de merde ! Si vous tombiez raide morte devant moi, ce serait un plaisir.
Mavis ne tarda pas à répliquer pour soutenir sa jumelle.
« Laissez-la tranquille! Les Dupins ne frayent pas avec les gourgandines! Écoutez-moi bien, vieille peau desséchée! Fichez-moi le camp et mêlez-vous de vos affaires! Sinon, je me ferai une joie de vous liquider toutes les deux !»
Tandis que les Dupins se retiraient dignement, Agatha se répéta dans sa tête. « J'y vais quand même. Je l'ai bien mérité. Allez, une dernière fois. » Le lendemain matin, alors que la pluie s'égouttait tristement du toit de chaume de son cottage, Agatha trouva devant sa porte Bill Wong et Alice Peterson. « Mrs. Agatha Raisin, » fit Bill d'un ton protocolaire, « je vous prie de nous accompagner au poste. Nous avons des questions à vous poser concernant le meurtre de Millicent Dupin. Pardon ? Je peux savoir ce qui se passe ? Moi qui devais retrouver l'homme de ma vie !» se morfondit-elle en silence. « Suivez-nous, nous vous expliquerons la situation. » Comme elle l'apprit, en arrivant au commissariat, Millicent avait signalé à sa sœur la présence d'un intrus dans le clocher de l'église la veille au soir. À ce moment-là,
Mavis s'était déjà préparée pour aller au lit, si bien que sa jumelle était sortie toute seule pour se rendre sur place, munie d'une lampe électrique et de la clé du clocher. Comme chaque soir, Mavis avala un somnifère et elle ne se réveilla qu'à 6 heures du matin, l'heure à laquelle elle se levait d'habitude. Partageant depuis toujours la chambre de sa jumelle, elle put constater que sa chemise de nuit était restée pliée sur l'oreiller et que sa moitié du lit n'avait pas été dérangée. Après avoir enfilé une robe de chambre, elle fit le tour de la maison en appelant Millicent et trouva la porte de la cuisine ouverte malgré la pluie. Elle se précipita alors dans le clocher et découvrit sa sœur gisant à terre, le crâne fracassé. Elle commença par se trouver mal, puis alla prévenir la police dès qu'elle eut repris connaissance. À l'arrivée des policiers, Mavis fit part des menaces proférées par Agatha et elle aggrava encore les choses en s'entretenant avec la presse. À une époque, la profession n'aurait pas hésité à couvrir un de ses membres. Mais ce temps était révolu et la passion de Terry pour Agatha s'étala bientôt dans tous les journaux. Présentée sous cet angle, leur liaison prenait une allure minable et sordide. Agatha aurait volontiers quitté le pays si la police n'avait pas confisqué son passeport. Elle se rabattit donc sur un grand hôtel pour touristes à Falmouth en se demandant s'il était possible de mourir de honte. Avant de partir, elle avait laissé son adresse à Doris, espérant que Charles la rejoindrait. Mais il ne donna même pas signe de vie. Chaque fois qu'elle essaya de le contacter, Gustave, le majordome, fit barrage, prétextant que Charles se trouvait à l'étranger. 2 jours après son arrivée à l'hôtel, un lugubre samedi, où une pluie battante criblait les eaux grises de la mer, Agatha reçut la visite de Tony, Simon et Patrick Mulligan. Elle les conduisit sur la terrasse vitrée qui donnait sur la mer et commanda des cafés pour tout le monde.
« Regardez, un coin de ciel bleu !» s'exclama Tony.
Le bleu, en effet, commençait à gagner nettement sur le gris, et Agatha sentit se dissiper une partie de sa honte et de ses idées noires.
« Tout d'abord, » reprit son assistante, « vous n'êtes plus le suspect numéro 1. Apparemment, Millicent s'était entichée de l'évêque, et il lui arrivait d'aller menacer certaines dames de sa paroisse. Du coup, vous n'êtes pas la seule à lui avoir répondu de dégager si elle ne voulait pas que sa tête finisse en pâté pour cochon. Là, je cite une certaine Mrs. Well Pilkington, qui lui aurait tenu ses propos à l'abbaye devant l'ensemble des fidèles. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Par comparaison, vos menaces sont assez inoffensives, Agatha. Tenez, j'ai pu récupérer votre passeport.
Si vous saviez comme je me suis sentie bête.
Dans ce cas, fit Tony, laissez tomber le café et offrez-vous un gin avec une cigarette. J'ai l'impression que vous n'avez pas cessé de vous torturer. »
Agatha lui adressa un pauvre sourire. Elle avait juré à ce dieu, auquel elle ne croyait pas vraiment, que, s'il la mettait à l'abri du scandale, elle ne toucherait plus jamais à l'alcool ni au tabac. Elle laissa Tony lui commander un double gin tonic, et puisque la terrasse était une zone fumeur, elle alluma une cigarette avec joie. Elle s'attira toutefois un regard furibond d'une des résidentes, une dame âgée qui s'empressa d'ouvrir une fenêtre en bougonnant. Un petit vent guilleret souffla sur la terrasse, apportant du dehors la rumeur des vagues.
« Et Charles ?» s'enquit Agatha. « Comment va-t-il ? » ?»« Il a découvert qu'avant de se volatiliser, Jennifer s'était amourachée d'une espèce de prédicateur américain. À en croire son amie Doxy, elle était folle de lui. L'évêque n'était qu'un imposteur, mais celui-là avait vraiment la foi, selon elle.
« Et Charles suit cette piste ?» Un silence gêné s'installa, puis Simon vendit la mèche.
On s'est dit qu'il valait mieux vous avertir. La nouvelle est parue dans le journal aujourd'hui.
Ne me dites pas qu'il se fiance avec cette Doxy.
Disons qu'il avait des soucis d'argent. Ses terres agricoles sont un gouffre financier, et avec le Brexit, il a peur de perdre les subventions européennes. Nous sommes tous invités au mariage.
Tout ça est bien précipité, à mon avis. Je me suis pourtant occupée de ses dettes. « Je l'ai aidé !»
Le rouge aux joues, elle ajouta en baissant d'un ton.
« Il aurait quand même pu m'en parler. »«
Tant pis après tout, » conclut-elle en son fort intérieur. Il était grand temps qu'elle redevienne la véritable Agatha Raisin, femme d'affaires à succès. Les femmes étaient-elles réellement condamnées par leur ADN à chercher la sécurité auprès d'un homme ?«
Je crois que je vais quitter l'hôtel et rentrer avec vous à Mercer. Vous avez des détails sur l'assassinat de Millicent ? Je ne sais même pas comment on l'a tuée. »
Un coup sur la tête avec un objet contondant, répondit Patrick, probablement un marteau. La même chose que pour Larry Jensen. Le problème avec Larry, C'est qu'il sautait sur tout ce qui bouge, et qu'on a pas mal de maris qui souhaitaient le voir mort, notamment certains de ses collègues.
Je me suis laissée aller, confessa Agatha. Ces derniers temps, j'avais du mal à me concentrer sur mon travail. Et James, au fait, qu'est-ce qu'il devient ?
Ne venez pas me dire qu'il se marie lui aussi ? Bien sûr que non, fit Patrick en jetant un regard entendu à Simon.
En effet, il savait par son collègue Phil, qui vivait à Carsley, que James Lacy fréquentait maintenant une nouvelle venue au village, mais il estimait qu'Agatha en avait assez entendu pour ce matin.
« Je suis venue avec Patrick et Simon, mais je peux repartir avec vous et vous accompagner à Carsley ?» proposa Tony à Agatha. « On pourrait relire vos notes ensemble. Quelque chose attirera peut-être notre attention. On devrait aussi passer chez Mrs. Blocksby. Les gens se confient facilement à elle. »
Agatha eut l'impression d'avoir recouvré une bonne part de sa santé mentale. Avec le recul, sa passion exaltée pour Terry lui faisait l'effet d'une bouffée délirante.
Après avoir récupéré ses deux chats chez Doris, Agatha rentra chez elle avec Tony, enchantée de retrouver sa maison et de se sentir guérie. Quant à Charles, il n'avait qu'à faire ce que bon lui semblait. Elle avait gaspillé assez d'énergie avec ce boulet. Elle s'étira le sourire aux lèvres.
« Je fais sortir les chats dans le jardin, » lui dit Tony depuis la cuisine.
« Je vais me préparer un gin tonic. Vous voulez quelque chose ?
Une vodka orange, si possible.
Pas de problème. »
Il y eut un bref silence, puis Tony entendit un bruit entrecoupé et une série de
« Non, non, non »
prononcés à mi-voix. Accourant au salon, elle trouva Agatha plantée dans l'encadrement de la porte, tremblante et gémissante. Elle la bouscula pour passer et resta pétrifiée devant la scène qui s'offrait à ses yeux. Le visage qu'elle découvrait était barbouillé de sang, mais elle reconnut tout de même Terry Fletcher, qui tenait encore à la main un bouquet de roses jaunes. On ne voyait plus qu'un de ses yeux verts, vitreux et fixes. L'autre avait disparu sous la traînée de sang qui coulait d'une terrible blessure à sa tête.